Merci pour ta parole qui a déjà été annoncée largement. Seigneur, je te rends gloire, je te bénis parce que tu es un Dieu qui parle, tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas un Dieu de bois qui a été fabriqué par la main d'un homme. Mais Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Et Seigneur, c'est pour cela que nous t'entendons. C'est pour cela, Seigneur, que ta parole vient et traverse nos cœurs, Seigneur, pour rester pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Amen. Bonjour. Alors, nous sommes de retour. Certains d'entre vous savent que nous étions partis. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Brigitte et moi avons eu l'occasion de faire un voyage de noces. 18 ans après, les enfants voulaient venir avec, on leur a dit « Mais non, vous n'êtes pas nés, vous ne pouvez pas venir avec. » Donc, c'était une première à tous les niveaux, c'était un premier grand voyage. Le voyage le plus long qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était l'Écosse. Ce qui est bien, l'Écosse c'est bien. Quand on a été en Écosse, je disais à nos amis, les Linda, on nous a accueillis là-bas, on nous disait « Il fait beau, c'est formidable, ça fait 3 ans qu'il pleut. » Nous étions donc en Israël, c'est une première pour moi de prendre l'avion. J'en ai réchappé. C'est un pays merveilleux. Mes lointaines racines juives se sont fait crier un peu à l'intérieur. Comme ça. Reste, reste. Mais voilà. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que le Seigneur veut. Donc nous avons rencontré pas mal de gens, nous avons vu beaucoup de choses. On a fait beaucoup de photos, des centaines, beaucoup de films. On vous montrera tout ça. Enfin, pas tout. On fera un tri, parce que sinon ça va durer très longtemps. On essaiera de faire un tri pour vous présenter toutes ces choses-là. Voilà. Une chose qui m'a fasciné en Israël, c'est le désert. J'en parlais avec Forrest, qui a passé aussi du temps là-bas. Le désert est fascinant. Et j'avoue que j'ai un petit peu changé ma façon de comprendre le désert après avoir passé du temps, enfin juste traversé le désert. Je ne connais pas le désert. Je l'ai traversé, je l'ai vu, et j'ai rencontré, nous avons rencontré une famille qui vit dans le désert, une famille de juifs messianiques. Lui-même est guide dans le désert et il montre le chemin aux touristes. Et surtout, je pense qu'il leur évite une fin cruelle parce qu'il connaît très bien tous les endroits où il y a de l'eau, où il y a de quoi manger éventuellement, comment subsister dans le désert, comment forger des choses avec une forge portative, voilà. On vous les présentera un peu mieux dans quelques temps. C'est une famille qui est très attachante, qui est là-bas avec 4 enfants, entre 3 et 11 ans. Et c'est intéressant. Alors, on va un peu parler du désert. Et pour cela, on va aller dans Josué. Chapitre 10, verset 14. Je vais fermer là, si ça ne vous dérange pas. Et verset 12. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, Arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Et le point que j'aimerais faire, c'est sur le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Le rêve de tous les enfants, c'est que lorsqu'ils disent quelque chose à leur papa, lorsqu'ils demandent quelque chose à leur papa, celui-ci s'exécute. N'est-ce pas? Mes enfants seraient très contents s'ils pouvaient venir me voir, me dire « Papa, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi, j'aimerais que tu fasses cela pour moi », et que papa dise « Pas de problème, je vais le faire. Je vais le faire. Tu me l'as demandé, je vais le faire. » Mais ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Il me demande des choses et je dis non. C'est terrible. Il faut dire que les demandes sont parfois un peu insensées. Mais c'est le rêve, je pense, de tous les enfants. C'est que dès qu'il demande, papa s'exécute. Et je pense qu'une des grandes joies des enfants, c'est que lorsqu'il demande et qu'il pense que peut-être ce sera non et que finalement c'est oui, c'est l'explosion. C'est la joie qui naît, c'est tellement inattendu. Mais vous savez, Dieu ne souhaite qu'une chose. Dieu ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir dire oui lorsque nous lui demandons quelque chose. J'ai regardé dans la Bible, jamais Dieu ni Jésus n'a dit « tais-toi » à un homme. Moi, j'ai souvent dit « tais-toi » à mes enfants. Et lorsque j'ai réalisé que Dieu jamais n'a dit « tais-toi » à un homme, je me suis repenti. Il a dit « tais-toi » à Satan, plusieurs fois. Lorsque les démons parlent, vous pouvez leur dire « tais-toi » et ils se taisent. Parce qu'ils obéissent à l'autorité divine. Jésus a dit « tais-toi » lorsqu'il y a eu la tempête sur le lac de Tibériade. Parce que ce vent venait du malin. Alors il lui a dit « tais-toi ». Entre parenthèses. Le lac de Tibériade et son environnement, c'est merveilleux. Nous sommes baignés dans le lac de Tibériade. Nous avons essayé de marcher sur l'eau et ça n'a pas marché. Tout l'enseignement, notamment dans Jean et dans Jacques, c'est que Dieu puisse accomplir la volonté de l'homme. Mais avant que Dieu puisse accomplir la volonté de l'homme, il faut que l'homme ait appris Dieu, qu'il ait appris à écouter Dieu, qu'il ait entendu la voix de Dieu, et que sa demande soit conforme à la volonté de Dieu. En Israël, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le désert, ça n'est pas une punition pour l'homme. Dieu n'a pas envoyé le peuple d'Israël tourner dans le désert, premièrement parce qu'ils étaient punis. Il les a envoyés pour qu'ils apprennent. Le désert, et j'en ai déjà parlé ici, a des fonctions, et notamment a une fonction essentielle, qui est de permettre à l'homme de se retrouver face à l'essentiel, face à lui-même, face à qui il est réellement. Le peuple d'Israël qui a tourné pendant 38 ans, était un peuple qui avait été formé, façonné par la culture égyptienne, vivant avec les dieux de l'Égypte, ayant emmené avec eux les habitudes et les dieux égyptiens. Dieu avait besoin que ce peuple revienne à la raison, qu'il revienne à l'essentiel, que leur nourriture, que leurs envies, que leur motivation, que leurs compétences, leur technicité, leur savoir, leur capacité de faire la guerre, que tout cela soit complètement transformé. Que Dieu change la mentalité complètement. Et si vous voulez, c'est symbolique de la vie d'un homme, ce qui s'est passé. Entre ce premier groupe qui est mort, ceux dont il est question, ces hommes de guerre dont il est question, qui sont morts, et leurs enfants, dont ils avaient dit, oui, ils vont mourir dans le désert. Dieu les a pris et les a amenés dans le pays promis. Le désert à regarder comme ça, c'est l'aridité, c'est la sécheresse, c'est le soleil de plomb. Alors nous sommes arrivés dans cette famille et il y avait là ce jeune homme qui s'appelle Gilboa, qui est un juif de Galilée, un Sabra. Et il nous a accueillis et il nous a dit, venez, écartez-vous du soleil, venez, mettez-vous à l'ombre là, asseyez-vous, vous allez voir, dans quelques minutes, vous vous sentirez beaucoup mieux. Il était midi, au soleil il faisait très chaud. Nous sommes assis là, et nous avons senti tout d'un coup ce petit vent qui venait. On ne sait pas d'où vient le vent, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit la parole, ce que nous dit Jésus, on ne sait pas d'où vient le vent, ni où il va. Mais ce petit vent qui venait là, et en 3 minutes, avec une citronnade, on s'est retrouvé comme avec la central heating, la climatisation. C'était comme une climatisation. C'était incroyable. Et j'ai dit à Brigitte, mais on est dans le désert. On était au sud de Beersheba. Vous connaissez Beersheba? Il y a les signes dans la Bible, c'est marqué. Alors ça, c'est fantastique aussi, n'est-ce pas? Vous avez l'impression de vous promener dans la Bible, en fait. Si vous avez Beersheba, vous avez Kadesh Barnea, vous avez Migdal, vous avez tout ce que nous lisons là, vous avez sur les panneaux routiers. C'est à peu près la seule chose à quoi ça sert, les panneaux routiers en Israël, parce que pour le reste, la signalisation, les limitations de vitesse, les lignes blanches continues, ça, c'est juste pour la décoration, en fait. C'est pour les touristes. Parce que non, le désert, c'est normalement 80, mais c'est au minimum 130, quand vous êtes israélien. Donc, bon, au bout de 2-3 jours, on s'habitue. Il faut faire avec, hein, parce que sinon... Mais le désert, on... voilà, c'est pas nécessairement ce qu'on croit. Alors, c'est ça le paradoxe du désert, c'est que soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. Si vous le refusez, c'est sûr, vous n'allez pas faire 3 jours. Vous allez mourir. Si vous l'acceptez, vous allez commencer à le connaître. Et vous allez voir que là où il y a une grande étendue blanche de sable, eh bien en réalité, en dessous d'une grosse pierre, un trou large comme ça. Vous descendez dans le fond. Il y a une grande cavité avec de l'eau fraîche dans laquelle on peut se baigner. Si vous le connaissez, c'est bien. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vous coucher à côté et vous allez mourir de soif. Si l'on refuse l'idée du désert, si l'on refuse ce que le Seigneur a pour nous dans le désert, là c'est sûr, on va y laisser sa peau. Mais si on l'accepte, Dieu va nous faire découvrir de l'eau. Il va nous faire découvrir de l'ombre aussi. Parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'ombre, mais... vous tournez à gauche, il n'y a rien. Vous tournez à droite, il y a un arbre. Il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le désert, il y a parfois un arbre où on peut trouver de l'ombre. En général, ce sont des acacias. Alors, pas des acacias qui ressemblent aux nôtres, qui font 20 mètres de haut, mais des acacias hauts comme ça, avec des aiguilles très très puissantes, très fortes. Mais qui peut vous procurer de l'ombre. Et le soir, vous avez des rochers, vous avez des dunes qui peuvent aussi vous procurer de l'ombre. Soit on refuse le désert et on en tire les conséquences, soit on l'accepte. Et Dieu va nous montrer comment il est capable de nous donner de l'eau. Comment il est capable de nous nourrir. Comment il est capable de nous garder des serpents et des scorpions. Parce que il y a des serpents dans le désert. Soisic, donc, qui est l'épouse de Gilboa, disait à son mari, il faudrait que les enfants ne partent pas n'importe où, parce que là, maintenant, c'est la saison des serpents. Il y a 2 types de serpents. Il y a, je connais pas les noms, mais il y a un serpent qui est pas dangereux. C'est-à-dire que quand il vous mord, ça met 20 secondes à. Le poison met 20 secondes à monter. Donc vous avez 20 secondes pour l'enlever. Si vous attendez 20 secondes, vous êtes mort. Donc celui-là n'est pas dangereux, parce que vous avez 20 secondes. Et vous en avez un autre qui lui est dangereux, parce que lui, il ne vous laisse aucune chance, c'est-à-dire qu'il attaque. L'autre est prudent, il a peur. L'autre est un. Dangereux serpent qui ne vous regarde pas longtemps dans les yeux, il vient vers vous et il vous attaque, et lorsqu'il vous mord, vous êtes mort. Et donc c'était l'époque de cela, et elle commençait à s'inquiéter quand même pour ses enfants. Mais croyez-moi, il faut de la foi pour vivre dans le désert. Mais si vous acceptez le désert, Dieu va faire naître cette foi qui vous manque. Il va la faire naître en vous. Et là où il y avait de la crainte, il va y avoir de la confiance. Là où il y avait de l'angoisse, il va y avoir du repos et de la paix. C'est ça, la confiance en Dieu. Le désert, n'est pas seulement l'aridité et la sécheresse, c'est aussi la rencontre. La rencontre avec l'autre. Vous allez me dire, mais tu rigoles, dans le désert, il n'y a personne. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde qu'ici. Ce qui fait que quand on rencontre personne, on la rencontre vraiment. Ici, il y en a beaucoup de monde, et on rencontre personne. Lorsque vous rencontrez une personne dans le désert, bien, vous savez, il vaut mieux pas vous fâcher avec la personne que vous avez à côté de vous dans le désert. Parce que c'est peut-être elle qui va vous sauver le jour où vous avez besoin d'elle. Donc les rencontres dans le désert sont extrêmement importantes. Et n'est-ce pas ça que Dieu veut ? Nous rencontrer, vraiment. C'est-à-dire enlever la foule qui est autour de nous. Tous les bien-pensants, tous ceux qui ont des choses extrêmement intéressantes à vous apprendre, tous ceux qui peuvent vous en compter, il veut les enlever. Parce qu'il veut que vous fassiez une rencontre, une seule. Ça, c'est une première partie. Le désert, c'est la solitude. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On en rencontre quelques-uns. La plupart sont des bédouins. Ils ont tous leur téléphone portable. Hein. C'est le dernier modèle, mais ils sont bédouins et on les reconnaît parce qu'ils ont leur... Mais la solitude, elle a une fonction extrêmement importante parce qu'elle nous laisse seuls avec nous-mêmes. Dans Exode, on voit que Moïse qui a été élevé dans la famille de Pharaon, qui était le fils de la fille de Pharaon, a été élevé avec beaucoup de monde autour de lui. Et lorsqu'il a senti ses racines hébraïques, d'hébreu, et son appel pour son pays, il a dû se couper de ce monde. Il est parti. Il est parti et il s'est retrouvé seul. Verset 15 de Exode 2. Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Donc c'est après l'épisode où il a tué cet Égyptien, n'est-ce pas ? Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. À ce moment-là, a commencé pour Moïse un long moment de solitude par rapport à la vie qu'il avait avant, par rapport à l'importance qu'il avait. Il était une des personnes les plus importantes du royaume. Et il s'est retrouvé là comme un berger. Il s'est retrouvé là face à une solitude continuelle, tous les jours. Vous savez, les Bédouins, on les voyait souvent sur le bord de la route, ils étaient là, seuls, avec leurs troupeaux. Et on pouvait très bien faire un recul dans le temps et voir Moïse avec son troupeau. C'était juste comme ça. Et la solitude... nous laisse seuls en face de nous-mêmes. Qui je suis ? Ô Dieu, qui suis-je ? Jusqu'à présent, j'avais jamais réfléchi à ça. Qui suis-je ? en toi qui suis-je. Dans Jérémie, il y a un petit passage intéressant concernant l'identité de ceux qui appartiennent à l'Éternel et leur façon d'être, leur façon d'abandonner le Seigneur, d'abandonner ce que le Seigneur a donné initialement. Jérémie 2, verset 18. Verset 17, « Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve ?» Moïse avait été élevé sur les bords du Nil, avec l'abondance de l'eau du Nil. Et Dieu, dans la solitude, l'a ramené à l'essentiel, à la source, la seule capable de lui donner à boire. Il l'a mis seul face à son propre identité. Non, tu n'es pas un Égyptien. Tu es à moi. Tu es mon peuple. Est-ce que Dieu vous a appris qui vous êtes réellement? Est-ce qu'il vous a mis dans cette position solitaire où il vous a parlé? Et il vous a dit, tu m'appartiens. Tu es à moi. Il n'y a qu'une source. Là où tu es allé boire jusqu'à présent, tu t'es empoisonné. Dans Exode, lorsqu'il s'agit de quitter l'Égypte, on va le lire parce que la parole est extrêmement importante. Exode 8, verset 23. Et c'est ça que Dieu veut nous apprendre prioritairement. Oh, je ne l'ai plus, là, j'ai perdu. Bref, même si je ne trouve pas, ce que Dieu disait, c'est que il faisait une distinction entre Israël et le peuple d'Égypte. Une distinction. Si quelqu'un connaît la référence. Et ça, c'était l'essentiel. C'était sortir du pays. Mis à part. Parce que le désert, finalement, c'est ça. D'une certaine manière, on parle de sanctification et on voit ça de façon un peu... Sorry. Verset 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et c'est pas loin du sens d'être mis à part, c'est pas loin du sens d'être sanctifié. Alors la sanctification, c'est ça. C'est d'être mis à part. Mais ça peut être dans un désert, parce que c'est là que se fait la différence. C'est là que Dieu vous apprend que vous êtes différent. Non pas que vous êtes mieux, que vous êtes différent, que vous êtes à lui, et uniquement à lui. Non pas à l'Égypte, non pas à la Syrie, non pas nourri par des fleuves, mais nourri par une source d'eau vive. Dans Nombre 23, il y a la même idée. C'est le moment où Balaam est censé prophétiser contre Israël. Et au verset 9 du chapitre 23, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Est-ce que nous sommes un peuple à part? Retournons dans Exode, chapitre 3. Si la solitude est propice à la recherche de Dieu, il y a autre chose qui est frappant dans le désert, c'est le silence. Il n'y a pas de bruit dans le désert. Ici, même à Hasbrouck, il y a du bruit. Peut-être certains vont dire surtout à Hasbrouck. Et dans nos pays, il y a du bruit. Tout le temps, il y a du bruit. À Jérusalem, à 3 heures du matin, je vous garantis qu'il y a du bruit. Ils dorment jamais. C'est bien simple, ils dorment jamais. Le seul moment où c'est calme, c'est le jour de Shabbat. Là, il n'y a plus personne. Mais dès 20 heures et des poussières, donc ça dépend de l'heure, il y a du bruit. Tout le monde sort tout d'un coup. Et c'est impressionnant. Mais quand vous allez dans le désert, et si vous éloignez de la route, il n'y a plus de bruit. C'est le silence. Peut-être un léger souffle. Il n'y a pas de bruit. Alors on peut se dire, mais le bruit... Enfin, le silence, ça m'aide. Donc, quand c'est silencieux, j'entends dès qu'il y a un bruit. C'est vrai. Mais en réfléchissant, c'est pas seulement notre ouïe qui est sollicitée. Ce sont aussi nos yeux. Parce que lorsqu'il n'y a pas de bruit, il faut regarder où on met les pieds. N'est-ce pas? Il y a le serpent. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, il faut regarder. Et lorsque Moïse, chapitre 3 d'Exode, versets 1 et 2, voit ce buisson là-bas, en train de brûler, et c'était un acacia aussi, il ne s'est pas dit, tiens, c'est un effet du soleil qui se couche. Il s'est pas dit, tiens, c'est le rayon laser de la discothèque de là-bas qui est en train de tournoyer dans le ciel. Aujourd'hui, c'est comme ça, hein. Vous promenez la nuit, alors vous voyez plein de choses. Les martiens vont venir un jour, on les remarquera pas, parce qu'il y a tellement de choses... Non, il n'y a pas de martiens, pardon. C'est bête. Ouais. Peut-être que le Seigneur va venir un jour, et on le remarquera pas. En fait, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. On est sollicité tellement que peut-être un jour le Seigneur va venir. Et si là, on n'est pas prêt, eh bien, on ne le remarquera pas qu'il est là. Alors, la solitude aiguise aussi notre regard. Et Moïse a vu que ce buisson flambait, mais il a vu plus que ça. Il a vu que le buisson ne se consumait pas. Et il s'est dit, là, il faut que j'aille voir. il faut que j'aille voir ce qui se passe. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner, je veux me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait. Ce sont des petits mots, n'est-ce pas? Je veux me détourner. L'Éternel vit qu'il se détournait. Est-ce que ça nous apprend quelque chose? Est-ce que le Seigneur nous a mis dans un désert où nous sommes seuls et où nous voyons qu'il est nécessaire de se détourner pour creuser plus profondément sur ce que le Seigneur nous présente? Parce que la rencontre dont il s'agit là, c'est la rencontre avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est autosuffisant, qui n'a pas besoin de combustible pour brûler. Il n'a pas besoin d'un buisson pour brûler. Il était là parce que c'était de circonstance. Mais il aurait pu se mettre ailleurs et il aurait brûlé tout autant. Le buisson ne se consumait pas. Et la rencontre que Moïse a faite avec Dieu, c'était celle-là. Dans un terrain aride, dans un endroit où il était seul, dans un endroit silencieux, le Saint-Esprit est venu. Et il lui a montré que c'était lui désormais qui allait diriger sa vie. Et que s'il se sentait l'âme d'un conducteur, le conducteur de son peuple, ce qu'il avait compris déjà, eh bien c'était l'Esprit de Dieu qui allait lui donner la possibilité de le faire, et que par lui-même il était impossible de le faire. Eh bien frères et sœurs, tout simplement nos vies, nous ne sommes pas en mesure de les mener, si l'Esprit de Dieu ne vient pas en puissance pour nous aider à le faire. Nous ne sommes pas capables d'être les bergers de notre propre corps et de notre propre esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit venir, qui doit prendre la place et qui doit le faire à notre place. Nous pouvons avoir des bonnes intentions, mais nous allons faire un massacre comme Moïse l'a fait. Nous allons nous tuer nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui permet à l'homme de vivre vraiment. Nous allons mourir. Notre corps va mourir. Mais Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus, en écho, dans Luc et dans Matthieu et dans Marc, a dit, il est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Est-ce que nous sommes vivants pour Dieu ce matin? Est-ce que nous sommes vivants par Dieu ce matin? Vous savez, il y a une chose qui est formidable, c'est que Dieu ne s'apitoie pas sur notre sort. Nous pouvons nous apitoyer longtemps sur notre sort. Dieu ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Il va nous emmener dans ce désert. Et si nous l'acceptons, nous allons faire la rencontre fondamentale. Si nous le refusons, nous ne la ferons pas. C'est sûr. Nous allons mourir dans ce désert. Vous savez, Josué parlait et Dieu accomplissait. Josué, avec Caleb, était le seul dont il n'a pas été dit qu'il était un homme de guerre. Josué était un bédouin. Il était armé par Dieu, mais il était un bédouin. Il avait appris le désert. Il avait entendu la voix de Dieu. Il avait fait les choses qui plaisaient à Dieu. Et lorsqu'il parlait, Dieu combattait pour lui. Est-ce que Dieu combat pour vous? Ou est-ce qu'il combat contre vous? Est-ce que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous avez cette certitude qu'il écoute, qu'il a une oreille attentive? Oh mon enfant, oui, 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 oui! Dieu ne dit pas « tais-toi » à ses enfants. Il les emmène dans le désert. Et c'est son amour, je vous garantis que c'est son amour qui vous emmène là, pas autre chose. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ta capacité à nous faire comprendre les vérités profondes qui sont dans ta parole. Et Seigneur, je te rends grâce pour l'amour qui est le tien, pour la patience que tu as. Seigneur, je te demande que dans le nom de Jésus, à chacun qui a entendu, Seigneur, cette parole ce matin, tu puisses permettre, Seigneur, la rencontre fondamentale, celle qui nous donne la vraie identité, celle qui nous donne la vraie source d'eau vive, celle qui donne à manger, celle qui est autosuffisante, celle qui fait que quand on parle, Dieu agit. Seigneur, nous voulons encore nous soumettre à toi ce matin. Te demander, Seigneur, de rentrer dans nos vies comme un feu dévorant. Seigneur, de tout balayer sur ton passage. Seigneur, et de nous amener à l'essentiel et de nous garder à l'essentiel. Seigneur, glorifie ton nom. Amen.